Europe 1.
17h,
18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Europe 1 pour Clap, votre rendez-vous cinéma du week-end. Ici, comme se plaisait à le dire Jean-Luc Godard, on ne veut parler que de cinéma et ça nous rend heureux. Dans la première partie de l'émission, je vous dirai tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité cinéma et notamment un projet avec la grande Céline Dion. Didier Allouche nous livrera son JT d'Hollywood. Et puis cette semaine, eh bien, je suis gâtée. Non pas une, ni deux, mais trois invités exceptionnels. Pour commencer, Valeria Bruni-Tedeschi qui nous parlera des Amandiers, son nouveau film, véritable déclaration d'amour au métier d'acteur, et à Patrice Chéreau également. Et puis Eya Aydara et Léa Drucker évoqueront pour nous la comédie Les Femmes du Square. Enfin, il est là, il est tout seul cette semaine, mais il compte pour deux.
Franck Vallière.
Non, en qualité.
Ah, d'accord.
Franck Vallière est à mes côtés. Bonjour,
bonjour
Franck.
Bonjour Laurie, bonjour à tous.
Alors on parle de quoi cette semaine Franck?
Oh là là, alors c'est pas compliqué, c'est une semaine infernale. 24 films si on compte les rééditions. Donc il y a un nombre incroyable de bons films qui sortent. On va essayer de vous amener vers ceux qui valent peut-être un peu plus le coup d'œil, ou en tout cas, peut-être même moi je me suis focalisé sur les petits films parce que on sait ce qui va se passer avec Wakanda Forever.
C'est ça.
Donc voilà. Il y a deux films notamment dont je vous parlais tout à l'heure qui sont très très intéressants.
Alors ce sera en dernière partie d'émission, on évoquera pour vous l'actualité des sorties salles. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 17h,
18h,
Clap.
Quelle voix!
Elle fait presque plus fort qu'Éric Carmen, l'original. Hein.
Ah, c'est vraiment, c'est la reine, c'est la diva, Céline Dion. Et si on vous passe cet extrait d'All By Myself, c'est que dans l'actualité du cinéma, sachez que Céline Dion va faire ses premiers pas en tant qu'actrice dans le remake d'une comédie allemande. Franck Vallière, vous avez plus d'informations pour nous.
Alors, cette comédie allemande, elle est aussi allemande qu'oubliée. Ça s'appelle SMS für dich. C'était sorti en 2016. Et puis, un réalisateur qui a donc acheté les droits et qui va... Alors, c'est assez incroyable parce que ça sort vraiment de nulle part. Il y aura dans les rôles principaux Sam Hugan qu'on a vu dans la série Outlander et Priyanka Chopra qui est une star Bollywood. Qu'on connaît surtout récemment pour l'avoir vu dans Matrix Resurrections. Et Céline Dion, il jouera donc son propre rôle. Je vous fais le pitch ou pas?
Ah bah oui, avec
tel
plaisir.
Tel que je crois qu'il va être, d'après les infos que j'ai pu glaner. A priori, il s'agit d'une dramédie, une comédie romantique dramatique, donc, dans laquelle une jeune femme a perdu son mari, mais continue de lui envoyer des SMS. Quelqu'un a récupéré le numéro et donc a une nouvelle ligne. Cette personne-là est un journaliste qui doit dresser le portrait de Céline Dion. C'est là où Céline Dion intervient. Et
oui,
va tomber
forcément
éperdument amoureux de cette femme. Et va donc demander à Céline Dion des conseils sentimentaux.
Génial.
Il y a de quoi faire.
Mais est-ce qu'elle va chanter alors dans le film? On ne sait pas.
En tout cas, il y a au moins 3 ou 4 titres qu'elle fera pour la BO, je crois.
Oh, bah magnifique. Bon, bah on va suivre ça de près. Hein. On vous met sur l'enquête, Franck Vallière. Autre actualité du cinéma, deux festivals qui ont retenu notre attention cette semaine. D'abord, le festival Cinetica qui se déroule à Bastia. C'est le premier événement consacré au cinéma d'animation qui se déroule en Corse. Un festival donc qui s'adresse aux petits comme aux grands avec une sélection de 15 films, des ateliers et puis des rencontres. Amandine Ferdon sera là notamment, c'est la réalisatrice du sublime Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui est toujours en salle hein, d'ailleurs.
Dis donc, il est marrant lui, c'est qui?
Nicolas, ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux? Toi tu lui écris des histoires, moi je les illustre.
Si on l'appelait tout simplement le Petit Nicolas.
Oh c'est chouette!
Je sens qu'on va bien rigoler.
C'est donc une 7e édition qui s'annonce très jolie. Ce sera ce week-end et jusqu'à lundi à Bastia, si vous avez la chance d'être sur l'île de beauté. On aimerait bien y aller. Hein.
Oui, c'est ce qu'on appelle avoir la chance.
Et l'autre festival dont on avait envie de vous parler, c'est le Festival international du film d'Amiens qui a débuté hier au programme 12 longs métrages en compétition, mais aussi des films cultes comme Casino, Les Demoiselles de Rochefort, Les Derniers Jours du Disco, en présence d'ailleurs de son réalisateur, Whit Tillman, et même Brésil de Terry Gilliam. Je crois que vous adorez, Franck, ce film.
Ah non, c'est pas j'adore. C'est que Terry Gilliam et Zeus dans mon Olympe cinématographique. Il faut absolument avoir la chance de voir Brazil, surtout si c'est le director's cut. La mélancolie rieuse de Gilliam, ça permet de retrouver Robert De Niro dans un rôle totalement délirant. Et Gilliam avait initialement, avant de revenir sur son propre point de vue, décidé d'appeler ce film 1984 et demi, donc hommage à George Orwell. Un doux rêveur qui revient chaque jour à la réalité, qui va bientôt le manger complètement. C'est un...
Bon,
c'est
il aime quoi.
Voilà. Ah, voilà. C'est un pouf, ce film. Il faut voir Basile en salle.
Il n'a plus de mots assez forts. Et puis, pour les 100 ans de Nanouk l'Esquimau, bah moi aussi je me fais plaisir avec des films pour enfants que
mais
je montre à mes enfants
mais
en ce moment. Le festival organise un ciné-concert. Vous avez vu cette superbe musique de ce film muet de 1922 qu'on entend. Cette musique qui sublime les paysages enneigés de l'Arctique. Moi vraiment, c'est l'un de mes films préférés que j'aime beaucoup montrer à mes enfants.
Vous vous préparez pour l'hiver peut-être
Oui, voilà, sur la vie de cette famille inuite. Alors, des avant-premières aussi sont prévues comme celle de Saint-Omer en présence de sa réalisatrice Alice Diop. C'est d'ailleurs le film, hein, je vous le rappelle, qui va représenter la France aux Oscars. Et donc une très belle programmation pour ce festival d'Amiens. Je rappelle les dates du 11 au 19 novembre. Et en parlant de festival, le jury du prochain festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez a été dévoilé cette semaine. Alors autour de la présidente Karine Viard, hein, ça on le savait depuis quelques mois, on retrouvera les comédiennes Camille Chamou et Bérangère Krief. On retrouvera également l'acteur québécois Antoine Bernard ou encore Stéphane Fuenquinos. Et c'est un festival qu'on aime beaucoup, peut-être même qu'on y sera pour une émission spéciale. Et pour terminer l'actualité du cinéma, un triste constat, hein, les comédiennes de plus de 50 ans sont toujours sous-représentées au cinéma.
Il n'y a pas de comédiennes de moins de... Enfin, vous plaisantez ou quoi? Toutes les comédiennes ont 22 ans. Enfin.
Évidemment. Les femmes ne vieillissent toujours pas, elles disparaissent des écrans. Hein. C'est par ces mots que l'AFA, actrice et acteur de France Associée, résume son baromètre 2021 sur la représentation des comédiennes de plus de 50 ans dans les œuvres cinématographiques françaises. Alors qu'elles représentent quand même, hein, les femmes, une personne majeure sur quatre au sein de la population française, seulement 7% des rôles ont été attribués à ces comédiennes dans les films français en 2021. C'est un chiffre dérangeant, sachant qu'on observe deux fois plus de rôles attribués aux hommes de plus de 50 ans. Comme quoi les choses bougent, mais encore trop lentement. Alors grâce à lui, en revanche, les choses bougent beaucoup plus vite. Attachez votre ceinture, on part direction Los Angeles. Retrouvez Didier Allouche pour son JT d'Hollywood.
Europe 1.
Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous. Ce vendredi est un jour crucial en Amérique. Non, ça n'a rien à voir avec les élections de mi-mandat. Je ne suis pas là pour vous parler politique aux USA. Je pourrais, mais c'est un autre sujet. Si ce vendredi est crucial, c'est au niveau des sorties de films en salle et du box-office que ça se joue. Deux films sortent ici en fin de semaine, deux films aux enjeux très différents. D'un côté, une énorme machine, Black Panther Wakanda Forever, de l'autre, un film presque d'auteur, même si l'auteur en question est tout simplement le plus grand des réalisateurs américains, Steven Spielberg, son film, c'est les Fableman, et les résultats de ces deux longs métrages seront regardés de très très près par les observateurs hollywoodiens. D'un côté, les chiffres de Wakanda Forever confirmeront ou pas le retour en salle du public pour les énormes blockbusters. De l'autre, c'est une autre histoire. Depuis le Covid, on ne sait vraiment pas comment faire revenir les Américains de plus de 45 ans dans les salles. Alors un Spielberg, ça ressemble à l'arme ultime. Sauf que ce Spielberg-là n'est pas des plus faciles. Il est très beau, mais très personnel, peu linéaire, son film le plus auteur. Ce mercredi, je faisais une interview dans le bureau d'un exécutif de studio. Avant de démarrer, nous discutions des films du moment. La discussion est venue sur le Spielberg et il a eu cette phrase « J'aime beaucoup, mais c'est impossible à vendre. Sur quoi peut-on vendre un film comme celui-là » Je lui réponds tout sourire « Bah, sur Spielberg, ça suffit pas, non ?» Son silence, légèrement condescendant, m'a plongé dans une grosse déprime. Hollywood ne semble même plus croire en son plus grand réalisateur. Seuls les bons chiffres des Fableman ce week-end pourraient me redonner la pêche. Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup Didier et à la semaine prochaine pour d'autres news made in Hollywood.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Bienvenue dans Clap pour la suite de votre émission cette semaine et on parle des Amandiers, un film qui nous plonge au milieu des années 80 à travers la vie de plusieurs étudiants à l'école des Amandiers, tenue à l'époque par Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et pour vous donner envie de découvrir ce film, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Valéria Bruni-Tedeschi, la réalisatrice du film. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de parler de ce film. Valéria, en 1986, vous avez à peu près 20 ans. Vous intégrez la deuxième et dernière promotion de cette école, hein, le Théâtre des Amandiers, créé par Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et puis, durant cette expérience, vous avez vu naître à vos côtés, hein, toute une génération d'acteurs, puisque vous étiez avec Vincent Pérez, Agnès Jaoui ou encore Marianne Denicourt. Vous ne vibrez que pour la jeunesse que pour les amis et surtout pour le théâtre, pour ce métier d'acteur. Ce film est inspiré donc de votre expérience. Est-ce que ça fait longtemps que vous aviez ce projet en vous ?
Non, en fait... Il était peut-être dans mon inconscient, mais voilà, j'y pensais pas. C'est Thierry de Peretti, le réalisateur, c'est un grand ami à moi, qui m'a un jour dit, il faut que tu fasses un film sur l'école. Voilà, et quand j'en ai parlé à Noémie Lvovsky, Agnès de Sacy, avec qui j'écris, c'était une évidence, comme si effectivement, ça faisait longtemps que je devais le faire, mais que je ne pouvais pas le faire avant, parce que parfois, il faut que du temps passe avant qu'on puisse parler des choses. Et puis, on a commencé à travailler sur un scénario qui partait donc de cette matière autobiographique, mais qui ensuite est allé dans la fiction et dans l'invention.
On est tous pris, là.
C'est le centre de l'Europe, ce théâtre.
L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène.
Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches.
Tout le monde est fou.
Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice. Et là, vous brûlez vos vies.
Un jour, il va plus se retenir. Un jour, il va plus être profondément gentil. Et tu vas rien comprendre.
C'est pas un passe-temps de jouer. C'est pas rien.
C'est pas un passe-temps de jouer, hein, la voix de Louis Garrel qui incarne Patrice Chéreau. Valeria Bruni-Tedeschi, est-ce que vous avez eu l'impression alors de brûler votre vie, comme c'est dit dans la bande-annonce ?
Bah, à l'époque, pendant l'école, c'est vrai qu'on vivait très très intensément et qu'on avait demandé un peu, c'était un peu cette expérience-là, d'effacer les frontières entre la vie et le travail. Et c'était, voilà. Mais après, moi, dans mon travail d'actrice et de réalisatrice, j'ai avancé plutôt de façon artisanale. Et c'est ça que j'aime, c'est de faire mon petit travail, voilà, comme un menuisier ferait un meuble. Mais par ailleurs, j'ai une vie structurée et, disons, qui me protège aussi de la folie dans laquelle ce métier peut parfois plonger.
Alors, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que ces jeunes, ils sont au tout démarrage, ils sont à ce moment-là où ils sont pleins de rêves, pleins de passion, pleins de fougue, pleins d'insouciance aussi. En plus, à une époque, les années 80, où il y avait en même temps l'émergence du sida, de la drogue, beaucoup de problèmes finalement, mais ils gardaient cette insouciance. Quels sont vos souvenirs à vous ? Comment vous l'avez vécu cette époque ?
Bah, c'est à la fois une époque joyeuse, c'est ma jeunesse, et à la fois une époque très sombre, parce que on avait l'idée de qu'on pouvait être malade au quotidien. On avait la peur du sida, elle était vraiment très très forte. Et puis il y avait la drogue qui circulait, il y avait c'était pas une époque merveilleuse, c'était ma jeunesse, c'était une jeunesse. Mais il faut pas dire que avant c'était mieux, c'était pas mieux, c'était différent d'aujourd'hui, je crois.
Il ne faut pas être nostalgique,
non.
Pas vivre dans le passé.
Non, non, pas du tout.
Nadia qui joue Stella, qui est le personnage, on peut le dire, inspiré de vous.
Voilà.
Il y avait plus, je pense qu'il y avait plus d'enjeux, c'était plus compliqué pour vous de la recruter ?
Non, non, non. C'était pareil. C'était chaque personnage était très important pour moi. Et d'ailleurs, c'était plus, je ne cherchais pas à chercher quelqu'un qui soit mon alter ego. Mmh. J'ai cherché quelqu'un, comme pour les autres personnages, qui ait les quelques caractéristiques du personnage. Même si elle est différente peut-être de l'idée que j'avais au départ, elle a certaines caractéristiques obligatoires.
C'était quoi ?
Bah, c'était une grande passion pour ce métier, une grande envie de travailler, une naïveté, une limpidité. Voilà.
Et un personnage que j'adore, c'est celui de Suzanne Lindon.
Oui.
Elle, c'est la perdante.
C'est la perdante. J'avais besoin d'un personnage de perdant.
Oui.
Il n'y était pas dans le scénario. Et c'est comme je ne trouvais pas vraiment un personnage pour distribuer Suzanne et que j'avais envie qu'elle soit dans le film. C'est rare. Je ne fais jamais ça. Je l'ai inventé, ce personnage, complètement et au dernier moment. Parce que non seulement j'avais besoin d'une perdante, mais j'avais aussi besoin de quelqu'un dans le film qui dise cette phrase qui me manquait. C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. Parce qu'à l'époque, le théâtre des Amandiers, c'était le centre de l'Europe.
Oui.
Culturellement, c'était l'époque de Jack Lang, c'était une époque très très faste pour la culture. Et tous les grands metteurs en scène, écrivains, comédiens, décorateurs, tout le monde passait par le théâtre des Amandiers.
Ces jeunes que vous avez castés, ils avaient conscience de ce qu'était le théâtre des Amandiers, de ce qu'était Patrice Chéreau, de toute cette époque ?
Certains plus, disons, plus, qui s'étaient intéressés plus au théâtre, mais comme ils venaient d'endroits très différents, ces jeunes gens. Il y en avait qui connaissaient moins Chéreau, il y en avait qui le connaissaient de loin. Je leur ai montré des films de Chéreau, L'homme blessé, parce que je trouve qu'il y a une énergie qu'il fallait qu'ils comprennent dans L'homme blessé. C'est un film que j'adore. Et puis, ils étaient libres de regarder des documentaires, mais ce n'était pas obligatoire. L'obligation a été L'homme blessé.
L'homme blessé. Et Louis Garrel, il a tout de suite dit oui pour jouer Patrice Chéreau.
Oui, en fait, je ne lui avais pas proposé tout de suite. J'étais allée. Parfois, on fait ça, on fait des détours quand on fait un casting. Mais quand je vois dans mon ordinateur les couples Chéreau, roman que j'avais mis au départ comme dans des idées d'un, comment on dit, un hologramme, là, j'avais mis au départ, c'était Louis et Micha. Donc, après, pendant 6 mois, on a fait des détours. Et ensuite, quand je l'ai fait lire à Louis, il a eu envie. Il a eu envie de le faire. Et je lui ai même proposé de faire des essais qu'il a accepté. Et ensuite, Micha, et il s'est imposé. Évidemment, il s'est imposé. Et Micha est arrivé de façon très, très naturelle. Parce que, aussi, je les avais vus tous les deux dans les mises en scène de Luc Bondy, qui est un autre grand metteur en scène qui était à Nanterre à l'époque. Et de les voir sur scène, ce couple Louis-Micha m'excitait. Et j'avais envie de voir Micha au cinéma aussi charismatique qu'il l'est au théâtre. Voilà, c'était mon défi.
Valéria Bruni-Tedeschi, quel est le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire sur Les Amandiers ?
Bah, qu'on aime les jeunes gens, qu'on trouve que les jeunes gens, ce sont des nouveaux visages du cinéma en France.
Ça, c'est votre plus grande fierté sur ce film.
Ouais.
Et franchement, vous avez très très bien réussi votre casting. Et c'est vrai que ils nous transportent ces jeunes, et on a vraiment l'impression. Et en plus, c'est agréable de repartir dans les années 80. Il y a aussi une très belle cartographie de cette époque, de ce Paris, de ce quartier et de ce théâtre. Donc merci beaucoup.
Merci.
Je rappelle que
merci.
Les Amandiers sera en salle le 9 novembre et qu'il faut absolument aller voir ce film. Cette déclaration d'amour aussi à votre métier. Au métier de comédien.
Oui, je trouve que d'avoir une passion, ça aide à se lever le matin. J'espère que mes enfants auront une passion. Je trouve que c'est un grand cadeau de la vie que de faire un métier qui nous passionne, quel qu'il soit. Et moi, je le fais de façon, encore une fois, assez artisanale. Donc, il ne me met pas en déséquilibre. Je me mets en déséquilibre quand je le fais, mais ensuite, comme une petite planète où je monte, après, le soir, je redescends.
Et nous, on adore votre cinéma. Donc,
merci
beaucoup. Continuez de le faire de cette façon-là, ça nous va très bien. Valéria Bruni-Tedeschi, je rappelle donc que Les Amandiers sera en salle le 16 novembre.
C'est le jour de mon anniversaire.
Ah, c'est le jour de votre anniversaire. Et ben voilà, on espère que ça va vous porter chance. Le 16 novembre, allez voir Les Amandiers. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire à Valéria Bruni-Tedeschi. Et en même temps, vous passerez un excellent moment.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous depuis le début de cette émission. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous parler d'un film coup de cœur, Les Femmes du Square, qui sort le 16 novembre en compagnie de deux actrices du film, Eya Haidara et Léa Drucker. Merci d'être là toutes les deux.
Merci.
Ça m'a beaucoup fait rire ce film, en tant que jeune maman, employant une nounou et découvrant les gangs de nounous au Square. Voilà, j'ai trouvé le film absolument génial. C'est réalisé par Julien Rambaldi. Ayez-vous joué Angèle, c'est une sorte de Robin des Bois du Square. C'est ça ?
Ouais, c'est une super héroïne.
Elle est incroyable, avec un super caractère. En même temps, c'est un personnage haut en couleur, qui d'ailleurs, à la base, a tout sauf envie de s'occuper d'un enfant.
Effectivement, ouais, c'est pas du tout son milieu, c'est pas son monde.
Non, elle préfère vendre des objets tombés du camion.
Voilà, elle est dans la débrouille et dans l'urgence.
Léa Drucker, vous incarnez donc son employeur. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film et dans ce personnage ? Elle est vraiment touchante, hein, cette femme.
Eh bien, c'est vrai. Alors d'abord, c'est la troisième fois que je travaille avec Julien Rambaldi, j'aime beaucoup travailler avec lui. Et c'est vrai que ce personnage, alors pour parler du mien, Hélène, il y avait un petit défi à mener avec ce personnage. Parce qu'il fallait trouver le moyen qu'elle ne soit pas trop antipathique. Parce que c'est vrai que c'est une femme bourgeoise qui a cette petite inconscience de l'employeur qui ne paye pas à temps.
Alors, en retard.
Je dis petite inconscience, mais ça fait beaucoup de dégâts, hein, cette inconscience-là.
Bien sûr.
Et alors pour moi, c'était un défi. De me dire, ok, comment on peut faire évoluer ? C'était dans le scénario, ça, mais j'avais besoin quand même et envie qu'elle soit humaine, parce que c'est à travers son petit garçon qu'elle va prendre conscience de ce que vive le personnage que jouait et Bouanga Pilipili, enfin de vivre, de comprendre à un moment donné ce que vivent ces femmes au quotidien, parce que c'est un métier très difficile, qui n'est pas toujours bien reconnu et bien... défendu. Donc heureusement, Angèle, que jouiez, est là pour les défendre.
C'est vrai, parce qu'en plus, on leur confie quand même ce qu'on a de plus cher au monde. Mais en même temps, je dis « on », mais bon, moi, j'espère bien traiter la mienne, mais on ne les traite pas toujours très bien. Ça a dû être agréable à jouer quand même, ce personnage qui est tellement riche, et elle traverse tellement d'émotions, de choses. Incroyable,
c'est
cette Angèle.
C'est vrai que pour, en tout cas, en tant qu'actrice, quand on nous propose des rôles comme ça, aussi haut en couleur, c'est assez jouissif.
Et vous êtes quasiment de tous les plans.
Pratiquement.
Ouais. J'aime pas dire que c'est votre premier grand rôle, parce qu'on vous a vu dans tellement de jolis projets. Mais en même temps, c'est vrai que celui-là, disons qu'il porte vraiment, c'est le pilier du film.
Bah oui, après c'est vrai qu'il y a tellement, c'est une boule à facettes. Oui, il y a ce côté frondeuse qu'elle a avec ses femmes du square, il y a cette romance aussi amoureuse
avec Ahmed Silla.
Exactement.
Qui est charmant, qui est beau, super. Hein.
Et puis on l'a jamais vu dans ce registre en plus.
Oui, on l'a rarement vu dans ce registre en tout cas. Enfin, moi j'avais pas de doute, et puis surtout avec Ahmed, ça faisait tellement longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On n'avait pas reçu ce scénario, cette petite pépite qui nous ferait dire à tous les deux « go ». Donc là, c'était l'occasion. Et puis, il y a toute l'intimité d'Angèle aussi, les sacrifices qu'elle fait. Tout ça, voilà, ça fait un beau mélange.
Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec.
Tu m'as acheté un pain au chocolat ?
Pas.
Bienvenue au square.
Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein.
Les nounous, c'est comme le foot, chacun son club.
Les filles, on arrête de se faire enfler maintenant. Hein.
Je voudrais voir Maître Sarr.
Maître Sarr, c'est moi.
Je vais la défendre, ta copine.
Merci. Hein. M'attendez pas à tomber sur un avocat sympathique.
Est-ce que vous avez infiltré alors ce gang des nounous?
Alors, c'est assez drôle parce que moi, du coup, si je suis maman. Et j'ai eu à emmener mon fils dans un petit centre d'activité pour bébés, pour les bébés qui ne vont pas à la crèche, qui sont gardés par des assistantes maternelles ou autres. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui où on faisait du yoga, de la gym, des activités un peu bobo parisien.
Voilà, je connais.
On va le dire. Et du coup, il se trouve que on n'était pas beaucoup de parents. Je pense que vraiment, de parents réguliers, j'ai dû en voir une, peut-être deux, peut-être un papa qui venait de temps en temps. Mais c'est tout. Et le reste, c'était que des assistantes maternelles et des gardes-enfants, des nounous, comme on dit. Et je dois dire que j'ai passé des temps mais merveilleux à les regarder, à les observer s'occuper de leurs enfants et dire « Ouais, non, mais il y a mon petit, mon enfant, et c'est pas du tout les leurs. » Et puis à elles aussi, c'était leur rendez-vous à ces femmes, à s'échanger des trucs, à rigoler entre elles. Et puis souvent, j'entendais effectivement des conversations qu'elles avaient par rapport à leur employeur, des difficultés qu'elles rencontraient. C'était vraiment un moment joyeux que je passais tous les matins. C'était aussi mon activité à moi, à 9h du matin, d'aller
avec
observer
les
ces femmes-là. Et le scénario de Julien est arrivé, je sais pas, un an après.
Ah oui,
donc
c'est
ça
génial.
A fait écho complètement.
Bien sûr. Vous aviez plus besoin d'aller au contact de
chacun. J'avais fait le travail
en
amont.
C'est ça, c'était déjà fait.
Puis ce qui est très beau, c'est ce que tu racontes très bien dans le film, enfin dans avec ton personnage, c'est le lien que tu as avec Vidal, l'enfant.
Ouais.
Le lien qui. Ce lien d'amitié, d'amour et de tendresse qu'il y a entre les deux et qui. Et qui est quelque chose qui nous échappe aussi.
Oui, c'est vrai, c'est ça qui est très beau dans le film, Léa, c'est que votre personnage. C'est pas une mauvaise mère en soi, mais c'est vrai que c'est une working girl, c'est une carriériste. En même temps, elle est en plein divorce.
Elle est paumée.
Mais elle a l'impression de bien faire et d'être là pour son petit garçon. Elle est pas là comme il faudrait.
Elle s'en remet à Angèle. En fait, elle s'en remet complètement à Angèle pour s'occuper de ses enfants parce qu'elle n'a pas le temps. Elle est tout le temps en train de travailler. Elle est en train de traverser une séparation et un divorce. Et elle, bon, c'est une femme qui est complètement, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu paumée, quoi. Et heureusement qu'Angèle est là et pour s'occuper bien de ses enfants. Et elle va se rendre compte qu'elle passe à côté de quelque chose. À trop travailler, on passe aussi à côté des fois de moments très précieux. Et les enfants grandissent. Et le film raconte ça aussi.
Oui, complètement. Et pourtant, on travaille pour offrir une belle vie à nos enfants. Mais il y a cette scène très jolie, Léa Drucker, où votre personnage arrive et le petit Arthur, il est en train de danser avec Aïdara, avec Angèle. Et où elle lui dit, mais vas-y, danse, quoi. Et devant sa mère, il se ferme.
Ouais, il se ferme complètement.
Mais
il
elle découvre
plus,
qu'il a cette joie de vivre.
Elle le voit en effet heureux. Mmh. Et elle se rend compte que ce n'est pas grâce à elle qu'il est heureux comme ça. C'est grâce à Angèle. et aux liens qu'ils ont tissés ensemble. Et c'est vrai que la danse, ça montre la joie et le bien-être. Et c'est vrai qu'elle, elle assiste à ça un peu comme un témoin, pas jaloux, mais ça la met face à ses incompétences de mère.
Ce qu'elle a raté. Bon, il y a une scène très drôle où vous l'accompagnez à un tournoi de judo.
Ouais.
Et Angèle, hein, le personnage, bien sûr. Et là, elle prend quand même beaucoup les choses à cœur.
Oui, ah, oui. Voilà. Mais ce petit garçon, effectivement, il est dans une période pas facile de sa vie. Il voit ses parents divorcés, il n'ose pas trop. Et Angèle, elle est là pour le muscler un petit peu, pour le réveiller, pour lui faire changer sa posture. Et oui, effectivement, alors...
Ça dépote,
ouais, c'est ça. Mais ce qui était drôle à tourner, c'est que les parents autour, qui amenaient leurs enfants faire de la figuration, oui, n'étaient pas du tout au courant. Ils n'ont pas lu le film, ils n'ont pas lu le scénario, donc ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se joue là. Et de les entendre, d'entendre mes réactions comme ça, où ils n'étaient pas du tout prévenus, ça, je pense que c'était un moment jouissif du tournage. Je voyais Julien derrière son combo qui était mort de rire.
C'est tellement
et
drôle.
Et moi, il fallait que je garde le truc. J'avais envie de rire à chaque minute.
Tout était écrit sur cette scène. Vous avez pu en rajouter un peu.
J'ai dû rajouter un petit bâtard comme ça.
Voilà.
Mais sinon, le reste était écrit.
L'adversaire, tu dois le regarder comme ça, droit dans les yeux.
Voilà, tu me chopes par le haut. Autour, arrête gauchy. Tu le piques et tu me mets ce grand bâtard par terre.
T'as un problème?
Quoi, j'aimerais bien que tu t'occupes de la situation.
Et croyez-moi, je vais tout faire pour vous aider.
Il faut savoir prendre des risques dans la vie.
Alors Léa Drucker, est-ce que vous auriez pu embaucher une nounou comme Angèle?
Ah oui, tout à fait. Ah oui, sans problème.
Parce qu'au démarrage, elle arrive quand même, elle est habillée très sexy. Vous passez au-delà de
Moi, son côté. Moi, ça pourrait me plaire beaucoup, mais je ne suis pas le personnage du film. Non, elle arrive avec son... Angèle arrive avec son panache, son insolence. Enfin, au début, elle veut bien présenter, mais après, c'est son caractère, c'est sa personnalité. Et Hélène est suffisamment pressée pour ne pas s'arrêter à ses... il y a une impression qui pourrait être un peu sur ces tenues vestimentaires qui sont assez audacieuses.
Ou son langage parfois. Et en plus, elle fume devant le petit. Bon, après, hein, voilà, on l'aime quand même énormément, Angèle. Bon, faire du cinéma, c'est rire, hein, c'est passer du bon temps, c'est aussi s'engager, faire passer des messages. On le disait tout à l'heure, mais clairement, hein, ce film donne envie quand même de revoir les conditions d'embauche de ces nounous à qui on confie nos enfants, les salaires.
Ça s'est traité sérieusement,
c'est vrai.
On n'est pas. C'est une comédie sociale.
Oui, complètement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est on voit votre personnage, pour lui, ça lui paraît anodin de ne pas la payer en temps et en heure, mais derrière...
Oui, parce que c'est très mal encadré. C'est des métiers très mal encadrés, et puis c'est des métiers où des fois, on est dans... Voilà, le personnage est dans l'urgence, donc elle l'engage sans la déclarer. Enfin, c'est plein de choses qu'on retrouve aujourd'hui. Ça, c'est la réalité, et c'est terrible, parce que ça les met aussi en péril, et il faut pouvoir les mieux encadrer ce profil. Alors, le film n'est pas non plus moralisateur, c'est pas un film qui donne des leçons,
d'ailleurs.
Mais il montre, en fait, le quotidien.
Est-ce qu'il y aura un avant-après Femme du Square, alors, et Aïdara?
Alors ça, c'est au public de le lire, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, j'attends grandement les retours du public, et de savoir... Si ce film va parler aux gens et je pense que ce film il tombe à un bon moment aujourd'hui où les gens retrouvent ce plaisir de se retrouver dans les salles de cinéma donc je crois que c'est une pour parler techniquement, une belle offre.
Oui, c'est une belle offre, c'est un film qui fait du bien. Et un autre film qui fait du bien, Léa, on en dit quand même un mot, il est sorti mercredi, c'est Couleur de l'incendie, l'adaptation par Clovis Cornillac du roman de Pierre Lemaitre, où vous jouez aux côtés de Benoît Poulvorde, Olivier Gourmet, Alice Izaz. Et Fanny Ardant aussi, bien sûr. Très joli film, une femme qui prend son destin en main, une femme trahie qui va se venger.
Oui, une femme forte, mais on s'y attend pas qu'elle soit forte comme ça.
Surtout à cette époque.
Au contraire, oui, on pense qu'il y a une femme qui est très, engloutie dans son carcan bourgeois et dans son univers très confortable. Elle est héritière et les choses ne vont pas du tout se passer comme elle pensait. Elle va découvrir ce que c'est que de vivre dans la réalité et avec plus rien, déposséder tous ses biens, tous ses moyens. Et c'est une femme qui ne sait pas du tout comment ça marche. Et ce qui est beau, c'est qu'elle va,
elle a pas les codes.
Elle va se révéler à elle-même à partir de ce moment-là. Elle va comprendre qui elle est. Donc c'est un parcours de femme étonnant et une femme d'action aussi.
Il y a de l'action, il y a du stratège, vous l'avez vu.
Je l'ai vu, j'ai adoré ce film. On rentre dans le film comme... comme on rentre dans un roman. Et effectivement, cette femme qui se révèle, où on a vraiment beaucoup d'empathie pour elle quand elle dit cette phrase avec une telle justesse, comment on fait dans la vie.
Dans la vraie vie, ouais.
C'est génial. Comment on fait dans la vraie vie, c'est génial. C'est génial de la voir se réveiller comme ça après. C'est un beau parcours, c'est une belle adaptation.
Et Clovis Cornillac qui lui dit on apprend vite l'école de la vie.
Exactement, ce qui est vrai. Oui. Et qui est super en canaille.
Super.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Je suis toujours en compagnie de Léa Drucker et Eya Hédara. On a parlé de ce film absolument génial, Les Femmes du Square, qui sera donc en salle la semaine prochaine, mercredi 16 novembre. Et maintenant, on va parler des films de votre vie, à toutes les deux.
Ouais.
Alors, si je vous demande votre première émotion au cinéma.
Ma première émotion au cinéma, c'était les comédies musicales. Il y a eu Le Magicien d'Oz, mais il y a eu aussi beaucoup les comédies musicales avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Parce que
moi, je sais que vos parents vous emmenaient au cinéma MacMahon à Paris.
Ouais.
Et donc, il y avait beaucoup de comédies musicales qui passaient.
Oui. Et oui, et j'ai même été ouvreuse au cinéma MacMahon plus tard.
Génial.
Et que j'étais bercée toute la journée quand je travaillais là-bas par les bandes-sons, qui étaient des bandes-sons de musique, de comédie musicale.
Et voilà, comme celle-là. Et voilà, bonjour Paris, on aime beaucoup. Allez, Aïdara, prends du plaisir à écouter cette musique. Mais vous, votre première émotion au cinéma ?
Ma première émotion au cinéma, l'effronté ?
Ah oui !
Ouais,
c'était beau ça,
Todd Miller.
Ouais, je pense que j'ai été subjuguée par ce personnage de Charlotte Gaston, joué par Charlotte Gainsbourg. Parce qu'elle disait beaucoup de choses qui ont résonné en moi au moment où je l'ai vue. Ça a réveillé plein de choses. J'ai été vraiment... forte émotion, beau souvenir.
C'est pas comme ça. Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas.
Je le connais pas.
Je suis sûre que c'est pas comme ça.
Allez-y, hein, faites-vous plaisir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Salut. Incroyable.
Elle avait une voix en plus irrésistible. Oui.
C'est vrai. Il est génial ce film. Léa Drucker, si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma.
Alors, je suis allée au Festival Lumière de Lyon pour l'hommage à Tarantino. Et je me suis retrouvée dans la salle le jour de la projection de Pulp Fiction, juste derrière Tarantino, Harvey Keitel, Tim Roth. Ils étaient juste devant moi.
Magnifique.
Et donc, j'ai vu tout le film Pulp Fiction avec les trois devant qui riaient et qui faisaient des commentaires en disant « Ah, tu te souviens là ?» Dès qu'ils voyaient une scène arriver, ils étaient dans une sorte de rigolade, de souvenir de tournage. Oui. C'était incroyable de voir le film comme ça.
C'est génial. Bah, Pulp Fiction, moi, ça fait partie quand même de, je pense, mon top 5.
Ouais, ouais, je pense que c'est génial.
La scène de la danse, hein, la chanson du twist. Franchement, on a rarement fait... mieux que cette scène, hein. Vous voyez, là, on est toutes les trois dans le studio en train
de penser à Travolta.
Voilà, de se dandiner en pensant effectivement à Travolta. Donc, c'est quand même super efficace. Alors, bon, bah, dans un autre registre, ayez votre meilleur souvenir de cinéma.
Oui, c'est vrai, effectivement, c'est Peau d'âne. Alors, meilleur souvenir, parce que je pense, c'est surtout parce que c'est le premier film. C'est mon premier film de cinéma. Et je me souviens, c'était une prof de français qui nous l'avait montré, avec qui on avait été voir. C'était un grand souvenir. Après, moi, c'est vrai que je me souviens, j'étais un peu mélancolique comme enfant. Et j'aimais bien aussi les choses qui nous renvoient pas au fantastique. C'est un peu de cruauté aussi.
Un petit peu. Bon, en tout cas, des choses pas très catholiques.
Voilà. Donc j'avais été
politiquement correct.
J'avais été assez émerveillée par Catherine Deneuve, cette première scène aussi avec cette âne qui pousse des cris assez fort. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment parce que c'est aussi le premier souvenir de cinéma que j'ai qui fait qu'en fait ça a été un moment magique. Et puis la musique aussi.
Bah oui,
la musique, même la musique. Préparez votre pâte dans une jatte, dans
dans une jatte plate. La chanson culte du cake d'amour.
Ouais. Mais ce qui était drôle aussi, c'est que notre prof, elle nous emmenait pour relever aussi des nouveaux mots. Pour parce qu'on avait un petit cahier de vocabulaire. Et moi, j'y étais pas du tout. Moi,
j'étais dans le complètement envoûté par le film. Vous vouliez déjà être actrice à l'époque?
Non, en tout cas, je faisais déjà du théâtre, mais j'avais pas forcément formulé le fait que je voulais être actrice, ou alors dans un inconscient, je sais pas.
Une séance de cinéma la plus dingue?
Alors, la plus dingue, c'était à la fête du cinéma, dans les années 80, donc, sur les Champs-Élysées, où, avec une copine, on avait pris un ticket, on avait vu 5 films dans la même journée. Et la dernière séance,
Je me souviens de ces fêtes du cinéma,
ouais, c'était
moi
drôle,
aussi.
C'était drôle, c'était super. C'était génial. Et on était arrivés à la séance pour Notorious, je crois que ça s'appelait. C'était le show d'Eddie Murphy. Et c'était lui en one-man show, c'était un film sur lui, quoi. Et avec une salle pleine à craquer, hilar. Et la dernière séance de minuit, donc avec la fatigue et tout, j'ai un souvenir d'extase de cinéma et de rigolade.
Ayez, Aïdara ?
Alors moi, c'est Titanic.
Parce qu'il y avait de la place sur la planche. Il y en avait de la place.
Non, mais surtout, je me souviens aussi, c'était cool parce que je faisais pas latin. Voilà, j'allais pas au latin. Il y avait que un petit groupe de gens qui s'étaient inscrits au latin le mercredi. Et du coup, je finissais les cours à 10h, je me souviens. Et on allait tous au cinéma Vépler le mercredi à 10h voir des films. Et on s'est fait cette séance de Titanic en bande, copains, copines.
Trop sympa.
Et les mecs, ils ont pleuré.
Ah ouais, oui, bien sûr.
C'était génial.
Jusqu'à la fin.
Quatrième, ou non, ils étaient là en train de chialer. les durs de l'école étaient en train de pleurer et tout. À côté de nous, on se tenait la main et tout.
C'était beau.
C'était génial.
Ah ouais,
c'est beau, hein. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Puis c'est vrai que jusqu'à la fin, on se dit, mais Jack, il va trouver une planche, un truc, un canoë, n'importe quoi.
Tu peux pas traverser tout ça et mourir comme ça, aussi bêtement, c'est pas possible.
Trop beau ce film. Alors maintenant, on va rire, hein, parce que bon, c'est vrai, Titanic, c'est quand même
Rions.
Oui, le film qui vous fait le plus rire, toutes les deux, Léa Drucker.
Moi, j'ai un film culte, Le Père Noël est une ordure. Je me marre à chaque fois et je trouve qu'ils sont géniaux tous là dans ce film.
Ça ne vieillit pas quand même.
Et puis c'est drôle, c'est bien écrit, c'est tellement bien joué. Je les aime tous. Donc j'ai toujours un grand plaisir à revoir Josiane Balasco, Anémone, Thierry Lhermitte, Clavier. Ils sont brillants.
Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde?
Eh ben, vous, il n'y a pas assez de place pour les réponses.
Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend.
Mais évidemment, ça dépasse. Est-ce que je vous dis une heure? Je crois plus maligne qu'à tout le monde, celle-là, hein.
C'est fou, hein, de faire des films avec autant de répliques cultes, autant de répliques qui font du bien, qu'on est toujours content de revoir. C'est quand
Depuis qu'on est gamin,
Depuis toujours, c'est notre Madeleine de Proust, c'est un petit rituel, on le revoit chaque année.
Et j'ai une passion pour Clavier, hein, là-dedans.
Ah oui, oui, ouais. Vous n'êtes pas la seule. Alors là, c'est un film plus actuel.
C'est un film plus récent et je crois qu'il va compter. Et il va beaucoup, beaucoup compter et beaucoup rester, celui-là. C'est Coupé.
Et c'est bien d'en parler parce qu'on ne l'a pas assez vu. Donc
on
ne
l'a pas assez vu, mais vraiment, c'est un film. Je pense qu'il va bien vieillir et c'est Coupé de Michel Hazanavicius. Et je pense que j'ai rarement autant ri et je ne suis jamais autant passée par tant d'émotions. ce malaise du début.
Complètement
et puis,
barré.
C'est complètement fou ce qu'on voit, ce qui se passe au départ, mais vraiment, c'est. C'est extrêmement malaisant. Et puis reconnecter avec tout le malaise qu'on a eu au départ.
Parce qu'au départ, on voit comme un film de zombies, de série B, très mal joué,
très mal réalisé.
C'est ça. Et on se dit, on va vraiment devoir regarder ça pendant 2 heures.
Ouais, c'est très dur. Et moi, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois en petit comité. Et je dois dire qu'on était très mal à l'aise dans la salle. On s'est dit, putain, il y a Michel en plus dans la salle. Qu'est-ce qu'il va falloir lui dire après? Et je l'ai revu à Cannes. Et c'était drôle parce que j'avais Forest Whitaker juste devant moi Et physiquement, ce qui s'est passé dans son corps, c'était magnifique. C'était magnifique. C'est-à-dire qu'il avait les mains comme ça, en se disant, qu'est-ce que c'est ? Et j'avais Dominique Farrugia à côté de moi qui rigolait dès le départ. Pourquoi ?
Ça avait été content.
Lui était content.
Quoi qu'il.
Et l'autre ne comprenait pas pourquoi l'autre abruti rigole derrière moi. Qu'est-ce qui est drôle dans ça ? Et après, ce qui s'est passé dans son corps, vraiment, c'était génial. Le mec, il se fend de la voix comme ça. C'est, vraiment, c'est super. C'est une belle expérience de cinéma. C'est un film qui va rester. C'est un film tellement drôle. Voilà.
Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. On te rigole pas. Non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs. C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con.
Avec une bande-son géniale. Là, on a entendu la voix de Romain Duris, hein, qui joue un réalisateur qui doit réaliser en temps réel, hein, en long plan séquence, exactement, un film de zombies, avec la voix aussi de Finnegan Oldfield, qui est absolument incroyable. Le film maintenant qui vous fait pleurer à chaque fois.
E.T.
Ben oui.
Voilà. Je suis pas la seule.
Grand classique,
hein.
Ben non.
Ouais. Ben non. Moi, je l'ai vu à sa sortie. J'ai vu quand c'est sorti E.T. Et à l'époque, je disais tout ce que disait mon père. Et je me souviens que j'y suis allée avec mon père. Et mon père avait dit « Ouais, c'est pas mal ». Et moi, j'avais sangloté à l'intérieur pendant tout le film. Et j'avais dit à mon père ouais, « Je voulais faire comme lui ». Je disais « Oui, c'est pas mal ». Alors, j'avais sangloté. Et donc, c'est un film que je revois encore. Et,
magnifique.
Et c'est tellement beau sur la séparation, sur
l'amitié, la différence.
Une rencontre qui fait du bien à ce petit garçon aussi. Cet E.T., il est merveilleux.
Encore une fois, le génie Steven Spielberg est derrière tout ça. Ayez, Aïdara.
Moi, celui qui me fait pleurer à chaque fois que je vois, c'est Le Grand Chemin.
Ah ouais, c'est celui qui, moi aussi, ça me faisait pleurer.
Ouais, ça.
Avec Anémone aussi.
Avec Anémone, avec Boringer, leur façon de vivre ce deuil, cette mélancolie qui traduisent tous les deux pas de la même façon. Et puis ce petit garçon qui est juste formidable.
Il est incroyable, ce garçon.
Il est incroyable, mais vraiment, à chaque fois que je le vois, ce film, c'est...
Non, mais moi aussi, j'avais pleuré comme une madeleine.
Très, très joli film. Votre comédie romantique préférée à toutes les deux ?
Pretty Woman.
Génial, ce morceau.
Ouais.
Moi, je suis toujours contente quand on me cite Pretty Woman. Ça me donne toujours l'occasion de repasser cette chanson.
Ah ouais, on est toujours content d'écouter cette chanson.
Franchement, c'est aussi un film qui fait du bien. Cette scène avec Julia Roberts, qui, quand il vient la chercher en bas de son immeuble.
Mais oui, c'est magnifique.
On a tout rêvé. Hein.
On a tout rêvé de ça.
Et attendu.
Edouard l'a fait. Encore un Edouard.
Ah non, ce film est merveilleux. Puis Julia Roberts,
elle est incroyable. Le parcours qu'elle a dans ce film est juste trop beau. Enfin, moi j'aimerais que je pleure aussi tout le temps. J'aurais pu le dire aussi parce que quand elle l'embrasse à un moment donné, parce que c'est aussi une règle qu'elle se fixe de pas embrasser. Et quand elle embrasse quelqu'un dort, c'est
c'est beau, hein.
C'est magnifique.
Ah, mais c'était une époque où on faisait une très très belle comédie romantique. Ouais. Un petit peu moins, je trouve, en ce moment. Léa Drucker, j'aime beaucoup ce film aussi.
Alors moi, c'est Un jour sans fin,
mais oui,
avec Bill Murray et Andy McDowell. J'adore ce film parce que je trouve ça très fort de réussir à faire une comédie romantique et à la fois qu'il soit une sorte de film... Pas d'anticipation, parce que j'arrive pas à trouver le bon mot, un film un peu fantastique, parce qu'il est coincé dans une boucle temporelle. Et alors, et ils ont réussi quand même, malgré tout, à faire une comédie romantique. C'est très très beau, parce que le personnage est assez odieux, et comment l'amour transforme, et comment il prend conscience de ce qu'il est, et ça va pas du tout, puisqu'il est quand même, il tombe amoureux d'elle. Enfin, moi, j'adore ce film, j'adore ce que ça raconte, et j'adore comment il est fait.
Puis il va réussir à la séduire à force de rester bloqué justement dans cette journée sans fin.
C'est l'angoisse, génial, ça, génial, d'être dans une boucle temporelle.
C'est spécial. Ça, l'avantage, c'est que le temps s'arrête. Mais bon, je pense qu'on s'ennuierait au bout d'un moment. Le film que vous conseillez à un enfant ?
Alors, Nos jours heureux.
Ah oui, de réalisateur que vous connaissez bien.
Eric Toledano, Olivier Nakache, des réalisateurs effectivement que je connais bien et qui parle...
Je rappelle que vous avez joué dans Le Sens de la Fête.
Ouais. C'est un concentré de super souvenirs de colonies de vacances. Et comme mon fils n'ira jamais en colonie de vacances, je trouve ça super qu'il voit ça.
Pourquoi il n'ira pas ?
Parce que...
Vous avez peur ?
Ah oui, non.
Maman, vous êtes maman poule. Moi aussi, j'avoue.
Je suis la maman qui n'envoie pas son fils en colonie de vacances.
Moi aussi, ça me fait
mais
peur.
C'est quand même cool. Voilà.
Parce qu'on a été en colonie de vacances.
Moi, je l'ai fait qu'une seule fois.
Bon, et peut-être parce que vous avez peur qu'il lui arrive la même chose qu'à ce petit garçon.
Et puis, les animateurs, je ne les connais pas.
Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs.
Les animatrices,
je
m'en souviens pas, j'avais fini de mots.
Je suis fini de mots. Hein, espèce de petit enculé de merde qui chie à sa race toute la journée. Voilà ce que t'es. Connard.
Bon. Parfois, on en a besoin.
Oui,
ça fait du bien. C'est Joséphine Demeau, cette scène, elle est cultissime.
Culte, oui.
Elle est géniale, cette scène. C'est vrai que ça donne pas envie d'envoyer son gosse en colo. Et Léa Drucker, c'est un autre film que j'aime beaucoup.
Oui, L'argent de poche. L'argent de poche de Truffaut. Qui est un film qui traverse le temps. Et moi, j'adore le regard que Truffaut il a sur l'enfance et comment il dirige les enfants. Et je l'ai montré à ma fille, même si, bien que ce film ait un aspect assez triste, mais je trouve que c'est un film qui respecte vraiment les enfants et le regard qu'ils portent sur eux est très, très beau, très juste et très élégant.
La force de Truffaut.
Ouais, il y a un magnifique discours d'instituteur à la fin que fait Jean-François Stévenin aux enfants où il leur parle comme à des. Il se met à leur hauteur et il leur parle avec beaucoup d'intelligence et c'est poignant.
Je voulais vous dire aussi. C'est parce que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie.
Magnifique.
C'est une de mes scènes préférées de cinéma. Vraiment une de mes scènes préférées. À chaque fois, ça me bouleverse.
Il y a beaucoup de.
Et Jean-François Stévenin était merveilleux.
Oui, je suis d'accord avec vous. Pour terminer, je vais vous demander à toutes les deux le titre du film de votre vie. Qu'est-ce que ce serait ? Léa Drucker ?
Un joyeux bazar. Un truc un peu une comédie, un peu.
Ça va dans tous les sens.
Ce serait peut-être pas toujours un très bon film, mais il y aurait du chaos, ce serait bien.
Puis il y aurait une bonne actrice, c'est déjà pas mal. Ayez, Aïdara.
Moi, je dirais attrape-moi si tu peux.
Ah. Donc elle court vite.
Ouais, et surtout, je sais pas où je vais.
Bon, mais l'essentiel, c'est d'y aller. Et l'essentiel, c'est d'aller découvrir Les Femmes du Square le 16 novembre au cinéma. Je rappelle que vous serez toutes les deux à l'affiche de ce film absolument génial. Vous jouez, et je le rappelle encore une fois, le rôle d'Angèle, sorte de Robin des Bois du Square, une nounou pas comme les autres, mais qu'on a tous envie de rencontrer. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap et c'est parfait puisqu'on va parler des sorties de la semaine maintenant. Alors au programme, trois grands films. L'un, c'est forcément le nouveau Marvel. L'autre, une autobiographie bouleversante. Et le dernier, la nouvelle adaptation d'un roman de Pierre Lemaitre. Pour terminer, on parlera aussi d'un jeune adolescent dealer qui rêve d'une vie meilleure. Bref, un très joli programme. Franck Vallière est toujours à mes côtés.
Présent.
Pour mon plus grand bonheur. Et on va faire un point, Franck, sur le box-office. Il aura passé donc toutes les vacances scolaires en tête du box-office. C'est...
Eh bien, Black Adam.
Black Adams avec The Rock qui est leader pour la troisième semaine consécutive.
Et alors avec Black Wakanda, moi je serai le distributeur, je penserai à ressortir Black Micmac dans trois semaines parce que ça pourrait marcher, on ne sait jamais sur un malentendu.
Oui, il y a un truc. Hein. Donc leader pour la troisième semaine consécutive avec 400 000 spectateurs de plus, ça fait un total d'1 770 000 entrées. Mais à mon avis, effectivement, il va devoir laisser cette première place à Black Panther qui a débarqué dans les salles mercredi et qui a démarré très très fort. En deuxième position, la principale nouveauté française
Mascarade.
De la semaine dernière. Bravo, Mascarade de Nicolas Bedos, qu'on a d'ailleurs reçu il y a deux semaines et qui a séduit 387 393 spectateurs depuis sa sortie le mardi 1er novembre. Et puis à la troisième place, puisque vous êtes très fort, Franck, une idée ?
Troisième place ?
Un film français, une grande dame.
Sortie la semaine dernière, une grande
dame. Non, pas la semaine dernière.
C'est Simone ?
C'est Simone qui se maintient à un très bon niveau. 272 000 entrées supplémentaires. Ça fait un total d'1 439 000 tickets vendus en un mois. Très beau succès mérité pour Elsa Silberstein et Rebecca Marder. Et enfin, un gros succès français qu'on avait envie de souligner, c'est celui de novembre qui a franchi mardi le cap des
2 millions.
2 millions d'entrées, véritable triomphe pour Cédric Jimenez, 2 ans après Bac Nord. Voilà, c'est un joli box-office, ça fait plaisir lorsque vous allez au cinéma, on aime beaucoup. Et on commence donc avec la sortie très attendue des studios Marvel, Black Panther, Wakanda Forever, un second volet riche en émotions après la mort de son acteur principal, hein, Chadwick Boseman, qui est décédé il y a 2 ans des suites d'un cancer. Il était inenvisageable de le remplacer. Ce personnage est donc décédé et la famille royale du Wakanda se remet difficilement de ce deuil. Mais une nouvelle menace venue des abysses met en péril le monde entier. La cause, l'extraction par les humains du vibranium, un puissant métal qui n'était détenu jusque-là que par le Wakanda.
Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan, le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin.
Cette fois, ils ont perdu leur protecteur.
C'est un très bel hommage, hein, c'est grandiose, bah, c'est Marvel de toute façon, ils savent faire des images sous-marines immersives avec de très beaux combats et en même temps c'est un film féministe aussi puisque ce sont 2 femmes qui vont se retrouver à la tête du royaume, la reine et la princesse Shuri. Une vraie nouvelle proposition des studios Marvel, c'est profond, ça pose des questions sur la légitimité, sur l'héritage, sur le deuil, sur la vengeance, avec cerise sur le gâteau, la BO sublime qui signe le retour de Rihanna, des nouveaux personnages aussi, bref, vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles. J'ai pas besoin de vous le vendre, de toute façon, vous allez tous y aller. Ça s'appelle donc Black Panther. C'est Black Panther 2 Wakanda Forever et on va tout de suite écouter vos premières réactions.
C'était plutôt bien réussi, peut-être même mieux que le premier niveau storytelling.
Franchement, c'était excellent. Le film, il était magnifique. Il y a un beau message qui est véhiculé là-dedans.
J'ai trouvé sympa. Je pense que c'est un de mes films préférés de la phase 4.
C'est un très bel hommage à l'acteur, Chadwick Boseman. J'ai adoré.
Il y a très belles images, très belle musique. Et oui, c'est très émouvant.
Je suis un grand adepte des Marvel. Celui-là m'a beaucoup plu. Il y a des très beaux paysages, pas trop d'effets spéciaux. Donc j'ai beaucoup aimé.
Et c'est vrai que c'est très émouvant et encore une fois, c'est un bel hommage à Chadwick Boseman avec un nouveau successeur. Vous verrez. Alors on continue avec la grosse sortie française hein, cette semaine, Couleur de l'incendie. C'est le nouveau film de Clovis Cornillac qui adapte donc le roman de Pierre Lemaitre avec un casting 5 étoiles. Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Fanny Ardant, Clovis Cornillac, Alice Izaz, Olivier Gourmet et j'en passe. Un mot sur l'histoire. Elle vient d'hériter de l'empire financier de son père. Le personnage de Léa Drucker va être victime d'un complot et se retrouver totalement ruinée à une époque, hein, celle de l'entre-deux-guerres où les femmes étaient reléguées à des rôles subalternes. Terme, eh bien elle va trouver la force de se venger et de prendre son destin en main.
J'ai besoin de 300 000 francs.
Vous aider ne va pas être possible, mon oncle.
Moi, je peux vous aider.
Mon journal vous soutient depuis 3 ans.
Dans 3 mois, ils vous mangeront la main.
Vous êtes ruiné.
C'était votre plan, n'est-ce pas?
Je cherche quelqu'un pour un travail.
Sur qui vous voulez enquêter?
Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout.
Alors, Franck Vallière.
Pas une semaine en novembre sans Léa Drucker dans un film.
Ah, mais on aime ça.
Voilà, il y a eu Close, c'était bref, mais on s'en souviendra longtemps. Cette semaine, c'est Les Couleurs de l'incendie. La semaine prochaine, c'est Les Femmes du Square. Elle est sans doute la meilleure comédie française de l'année, entre parenthèses, mais on en reparlera.
Et elle était là il y a quelques instants, d'ailleurs, pour nous en parler aux côtés d'Eya Aydar.
Et alors, dans Les Couleurs de l'incendie, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue filmique, Clovis Cornillac semble nous indiquer qu'il surkiffe Brian De Palma dans les 4 premières minutes avec un plan séquence qui n'en finit pas, qui est une belle démonstration. Et après, ça s'apaise, ça devient beaucoup plus classique. Et il y a déjà un rôle, donc rendez-vous au César pour Léa Drucker, parce que c'est quand même un rôle très, très, très porteur. Une mise en scène donc, qui s'apaise un peu, mais qu'elle porte tout au long du film. Il faut se souvenir que c'est un grand film qui se veut populaire, qui a coûté très cher, 16 millions d'euros. Et donc, du coup, la véhilité par-delà le fait d'avoir montré à quel point il savait faire des beaux plans de Clovis Cornillac est avant tout de faire un film populaire. Donc les plans s'assagissent, deviennent très classiques, presque surannés et donc collent à l'époque. Et on ne lui reprochera sans doute pas cela. Après, moi je suis resté un tout petit peu en dehors de l'émotion en ce qui concerne des personnages, parce qu'il y a parfois des jeux très théâtraux. Je pense notamment à un banquier qui n'a pas un rôle très important, mais qui rappelle à quel point il faut placer de la distance pour séduire un public large entre l'action et le revenge movie que le roman de Pierre Lemaitre suppose et accéder à un public populaire, large, et même on peut amener les enfants, il ne s'y passe rien de si terrible que ça. Donc c'est un grand film familial et populaire qui devrait séduire les masses. J'espère qu'on retrouvera ça devant Black Panther quand même, la semaine prochaine.
Et qui doit être vu sur grand écran. Absolument. On va tout de suite écouter les premières réactions.
J'ai beaucoup aimé, vraiment. Je pense que Cornillac a retrouvé un peu l'idée, enfin le climat du bouquin de Lemaître.
Plus les couleurs de l'ennui que les couleurs de l'incendie, pour moi, c'est tout de suite oublié. Quoi.
C'est superbe du début à la fin. Tous les jeux sont formidables. Fanny Ardant est extraordinaire. Et moi, Léa Drucker, j'ai vraiment apprécié. Clovis Cornillac aussi. Enfin, vous voyez, bon, je suis enthousiaste.
On continue notre tour d'horizon avec peut-être l'oublié du palmarès du dernier Festival de Cannes, puisque vraiment le film est génial. Ça s'appelle Armageddon Time, le nouveau film de James Gray qui était en compétition donc au dernier Festival de Cannes. C'est une autobiographie bouleversante du réalisateur qui nous plonge au cœur de son enfance à New York dans les années 80. Un drame intime et politique avec un casting de haute voltige, Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong et ce jeune acteur qu'on adore, Banks Repetta.
Je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand.
Tu deviendras artiste si tu le veux vraiment.
Rien ne pourra t'en empêcher.
Tu iras à l'université.
Vous êtes dangereux tous les deux.
Je te garantis que tu n'es pas prêt de le revoir.
Je comprends pas pourquoi.
Tu viens d'apprendre à être enchanté, qu'est-ce qu'il y a?
Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs.
C'est qui celui-là?
C'est un mec de mon ancienne école.
C'est vraiment sublime et on suit tout ça à travers les yeux d'un enfant nommé Paul Graff. C'est sans doute le film le plus personnel de James Gray, réalisateur, je le rappelle, d'Ad Astra, The Lost City of Z ou encore The Immigrant, qui était d'ailleurs également un film personnel inspiré de la vie de ses grands-parents. Et ça aborde des thèmes importants, le racisme, l'antisémitisme. Il est ami avec ce jeune garçon noir qui vit en situation précaire, qui dort presque à la rue. Il va y avoir une amitié puissante, émouvante, mais en même temps qui dérange. Ils vont faire ensemble les 400 coups. Ça parle de la famille, cette relation aussi avec son grand-père joué par Anthony Hopkins. C'est une histoire familiale et historique également. Vraiment, je vous encourage à aller le voir. On va écouter tout de suite ce que vous en avez pensé.
Le film était vraiment excellent, très touchant et Anthony Hopkins, magnifique.
Je trouve que les deux acteurs, les deux jeunes, ils jouaient excessivement bien. Malgré tout, je suis sur un petit peu une pointe de déception, mais c'est quand même un assez beau film.
Bouleversant, émouvant, un grand film.
Et puis dans un autre registre, la sortie de Dealer, c'est un premier film. C'est l'histoire d'un jeune de 14 ans, Johnny, qui deal de la drogue pour un gang. Il va rencontrer Anthony, un grand acteur de théâtre qu'il voit comme un père de substitution. C'est un drame très dur, mais toujours en quête d'amour. Franck Belliard.
Oui, mais ça se finira mal, c'est sûr. C'est annoncé au programme, c'est un drame. Alors, ce qui est fascinant dans ce film, qui est un premier long métrage belge, c'est que c'est la rencontre de deux êtres qui ont beaucoup de choses pour s'assembler, bien que très différents. C'est-à-dire que c'est un jeune dealer de 14 ans qui est encore assez innocent, qui ne comprend pas du tout les codes du monde adulte. Et il rencontre donc un acteur qui est complètement désabusé, qui a perdu toutes ses illusions. Et cette rencontre-là, il y a une espèce d'amitié qui naît de cela. Malheureusement, l'enfant, enfin le préado qui joue le rôle du dealer, n'a pas les codes du monde des adultes et donc on va en devenir la première victime au gré de nuits complètement débridées de sexe, de drogue. Si vous avez aimé la trilogie, pour donner, non pas à titre de comparaison, mais en tout cas pour donner la tonalité de ce film, pensez que si vous avez adoré la trilogie Pusher de Nicolas Winding Refn, vous allez suradorer.
On va écouter les premières réactions.
J'ai été très surpris par le sujet, en fait, par le fond, entre l'artistique et la vie de la rue, quoi. J'ai beaucoup aimé ce côté très solaire et à la fois très, très sombre.
Oui, j'ai beaucoup aimé, bien sûr. C'est très fort, sensation de manque. Le manque de l'autre, ça m'a rappelé des choses personnelles.
Et puis dans l'actualité du cinéma également, il y a bien sûr le film Pacifiction d'Albert Serra avec Benoît Magimel, un thriller paranoïaque sur les îles, absolument magistral. Et puis un film dont j'avais envie de vous parler, Trois nuits par semaine, c'est mon coup de cœur, c'est une très belle histoire d'amour avec Pablo Poli qui tombe amoureux dans le film de Cookie Conti, une drag queen. C'est un film qui parle d'amour à l'épreuve des préjugés. Et puis Franck, vous vouliez nous parler des Repentis, de la réalisatrice espagnole Issiar Bolaín.
Oui, c'est ça.
Oui, le film a remporté 3 Goya, les Césars espagnols. C'est une rencontre entre une veuve et les assassins de son mari, oui. Un haut fonctionnaire.
Alors, cette veuve est jouée par Blanca Portillo, qu'on a vu dans Volver, d'Almodovar, ou encore Les étreintes brisées. Et Luis Tomar, qui a un charisme de malade. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où il ne fait rien, et pourtant il occupe tout l'espace. C'est un acteur espagnol qu'on a vu notamment dans Miami Vice, carrière internationale, du côté de Michael Mann, et aussi dans des films d'Alex de la Iglesia. Et il y a des morceaux de bravoure totale, ça transpire le cinéma dans chaque plan. Il y a notamment 2 rencontres de 10 minutes, même pas des confrontations entre victimes et bourreaux, qui sont des morceaux de bravoure technique sans être ostentatoires et qui vous plongent dans un état émotionnel totalement dingue. Et le mieux de l'histoire, parce que ça concerne les attentats de l'ETA et en dessous du GAL, vous pouvez très bien ne rien savoir ou comprendre de ce qui s'est passé dans l'histoire espagnole, car comme chacun le sait, Belmondo disait dans Un sage en hiver que ce soit la révolution ou la paella, rien de ce qui est espagnol n'est simple.
Merci beaucoup Franck. Et pour finir, je voulais aussi vous parler d'un documentaire écolo, ça s'appelle Mission Régénération. En 1h25, les réalisateurs Josh et Rebecca Tickell tournent un film bourré d'espoir, un film qui propose une vraie solution durable pour inverser les effets du réchauffement climatique. La solution se trouverait en fait sous nos pieds, en régénérant la Terre, tout simplement.
Cette solution se trouve sous nos pieds et elle est vieille comme le monde.
On peut régler une grande partie des problèmes climatiques en rapportant le CO2 dans les plantes et dans le sol, là où est sa place. Un sol sain donne des plantes saines, ainsi que des êtres humains et un climat sain.
En version originale, c'est Woody Harrelson qui mène le récit. On aime beaucoup. Le documentaire sort donc au cinéma et il est aussi disponible en version française avec les voix de Pascal Elbé et d'Edouard Bergeon, qui est le réalisateur engagé du film Au nom de la Terre avec Guillaume Canet. C'est déjà la fin de ce clap. Merci beaucoup Franck Vallière.
Ah bah non, merci à toi.
Et je le rappelle qu'aujourd'hui, je recevais trois femmes d'exception, Léa Drucker et Aïdara, qui seront à l'affiche des Femmes du Square.
Sublime.
Valéria Sublime et Valéria Bruni-Tedeschi pour son film Les Amandiers. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. En attendant, je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour toujours plus de cinéma sur Europe 1.